RCF. Accueillir, ne pas accueillir, pourquoi l'hospitalité, pourquoi l'inhospitalité, pourquoi les migrants, comme on les appelle aujourd'hui, sont-ils très souvent violemment rejetés? Telle est la question, les questions que nous allons aborder dans cette seconde émission en compagnie de Jacob Rogoszynski dans son ouvrage « Inhospitalité » publié aux éditions du CERF. Bonjour Jacob Rogoszynski.
Bonjour Monsieur Vidal.
Nous nous sommes quittés lors de la précédente émission en parlant de Derrida, en parlant de sa conception inconditionné de l'hospitalité. Et vous émettiez quelques réserves. Et ces réserves étaient d'importance, malgré l'admiration que vous éprouvez pour le penseur, tant sa pensée, si je peux me permettre ce terme, est maximaliste. Vous disiez tout à l'heure que cette conception de l'hospitalité peut elle-même, dans sa radicalité, susciter de la xénophobie. Est-ce que nous pourrions revenir sur cette idée-là?
Oui, c'est-à-dire que, poser d'abord que l'hospitalité doit être inconditionnelle, ça signifie qu'on doit accepter tout le monde avant même de savoir qui c'est, quel est son nom, pourquoi il vient. Et en plus, ça survalorise, ça idéalise tellement la figure de l'arrivant, de celui qui vient, que Derrida en vient à décrire sa venue comme un événement messianique. Or, comme je le disais, bon, ceux qui viennent ne demandent pas à être accueillis comme le Messie. Ils demandent à être accueillis comme des hommes et des femmes, qui ne peuvent plus vivre là où ils vivaient auparavant. Et ils demandent à être accueillis ainsi et à être intégrés. Alors, je pense que Derrida place la barre trop haut. Et je pense aussi qu'il a tort de situer l'hospitalité uniquement sur le plan de l'éthique, oui. Donc sur un plan absolu, sur le plan de l'accueil absolu du visage, puisqu'il s'inspire là d'Emmanuel Lévinas. Alors bon, pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut lutter contre une hospitalité inhospitalière, une hospitalité sélective, hein, qui choisit, qui trie. Et aussi parce qu'il pense que si on situe l'hospitalité sur le plan politique et juridique, on risque de l'asservir aux impératifs pragmatiques des États. Des États qui sont tout prêts à accueillir des millions d'étrangers lorsqu'ils ont besoin de main-d'œuvre et qui sont tout prêts aussi à les expulser lorsqu'ils n'ont plus, lorsque le chômage menace, etc.
Bon, en période de crise.
Derrida pense, oui. Derrida pense qu'il faut une idée, une loi, dit-il, d'hospitalité qui soit différente de la loi des États. Je pense qu'il a raison, mais je pense que son erreur, c'est de situer cette loi absolue de l'hospitalité sur le terrain de l'éthique. Je pense qu'il faut la situer sur le terrain même du droit et de la politique. C'est là que se déploie ce que j'ai appelé le dispositif d'inhospitalité, et sur ce terrain-là qu'il faut tenter de le combattre. Donc, il faut, comme je l'écris dans le livre, démoraliser l'hospitalité. Non pas la démoraliser au sens courant.
Détirer-moraliser,
c'est-à-dire la soustraire au champ de l'éthique. L'éthique, bien sûr, implique quelque chose d'absolu. Le « tu ne tueras pas éthique », dit Lévinas, est un commandement impératif absolu. Non, il faut soustraire l'hospitalité à cela pour l'installer sur le terrain du droit et de la politique, sans la servir pour autant à la politique à courte vue des gouvernements qui pensent avant tout à se faire élire, etc., à établir des majorités et à satisfaire l'opinion sans cesse sondée de différentes manières par toutes sortes d'instituts. Non, il faut autre chose. Il faut trouver sur le terrain politique et juridique un idéal, une idée qui puisse guider et permettre une politique d'accueil. Une politique d'accueil qui assure aux étrangers qui viennent un droit de séjour afin de les intégrer autant que possible.
Et c'est là qu'intervient Kant, auquel vous consacrez un chapitre, qui écrit notamment « L'inhospitalité est contraire au droit naturel ». Et donc on est bien là, non plus sur le terrain de l'éthique, mais sur le terrain du droit. Non plus sur le terrain de la morale, mais sur le terrain du droit. Kant donc nous permet de réfléchir différemment à cette question de l'accueil.
Voilà, et je pense que bon, il y a plus de ressources qu'on le croit dans la pensée de Kant. Si on se représente très souvent Kant comme une sorte de moraliste abstrait, ou comme disait Peggy, le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Si, Kant a des mains. Il s'intéresse à des questions juridiques et politiques. Il était très intéressé, passionnément intéressé par la Révolution française qui avait lieu de son vivant, bon, par exemple. Alors, le grand souci de Kant, et là ça devrait nous concerner de très près, c'est la question de la paix. Il voudrait chercher comment limiter autant que possible l'hostilité naturelle que les hommes et les peuples éprouvent les uns envers les autres. C'est-à-dire Kant n'est pas un utopiste abstrait, un homme des Lumières, disant que les hommes sont bons par nature. Non, l'homme est radicalement mauvais.
C'est pas Jean-Jacques Rousseau, Kant.
Non, voilà. Il y a un mal radical dans notre nature. Et donc l'attitude spontanée de l'homme envers son semblable, c'est l'hostilité. Et ça peut conduire à la guerre entre les peuples, et dans des termes vraiment très très prophétiques, il écrit ça en 1795, il parle de la menace d'une guerre d'extermination réciproque qui laisserait l'humanité qui enverrait l'humanité tout entière au cimetière. Bon, voilà, aujourd'hui, la guerre s'est rapprochée de nous, la menace nucléaire est toujours présente, je pense que ça résonne aussi pour nous, c'est très actuel. Donc la question que se pose Kant, c'est comment essayer de sortir de l'état de guerre. Et là, ce qu'il propose, c'est pas une solution éthique, c'est pas le « tu ne tueras point », non, c'est essayer de construire ce qu'il appelle une société ou un droit cosmopolitique. Alors, le terme allemand est beaucoup plus parlant que la traduction française. Le terme allemand signifie « droit des citoyens du monde ». C'est-à-dire, le grand apport de Kant, c'est qu'il est un des premiers à avoir pensé un droit qui ne se réduirait pas au droit national, au droit des États, mais qui serait un droit de tous les hommes, un droit des citoyens du monde. Et il s'appuie sur le fait que, dit-il, la Terre est finie, la Terre est limitée. Ça, c'est très intéressant.
Oui.
La Terre
cette
étant
finitude,
un globe limité,
voilà, ce globe.
La finitude de la Terre, les hommes sont condamnés à vivre les uns avec les autres, et donc on doit trouver un moyen pour qu'ils cessent de se combattre les uns les autres. Et c'est intéressant pour nous aujourd'hui, parce que ça, Kant ne pouvait pas le prévoir, mais la finitude de la Terre, maintenant, elle a un sens qui n'est pas seulement spatial, mais qui est aussi temporel. Nous savons que d'ici quelques dizaines d'années, un demi-siècle, un siècle, la Terre risque tout simplement de devenir inhabitable pour les hommes et pour les autres vivants.
Problème de l'eau, des ressources en général.
Et
donc, réchauffement climatique. Donc, c'est un problème qui, vraiment, est de l'ordre de l'urgence aujourd'hui.
Voilà. Donc, les questions que pose Kant, à plus de deux siècles d'intervalle, restent encore nos questions. Et alors là, bon, comment accéder à ce qu'il appelle cette société cosmopolitique, comment accéder à cette cosmopolis, cette humanité réconciliée avec elle-même qui serait sortie de l'état de guerre. Et il répond de manière très intéressante, il dit que ce droit des citoyens du monde se ramène au principe de l'hospitalité universelle. Et c'est là qu'apparaît l'hospitalité. Pourquoi ? Parce que l'hospitalité est un principe de pacification. On déteste au fond ce qu'on ne connaît pas. On déteste et on a peur de l'étranger parce qu'on ne le connaît pas. Lorsqu'on commence à le fréquenter, lorsqu'il vient chez nous, lorsqu'on va chez lui, là on s'aperçoit que ce sont aussi des hommes comme nous. Et donc on tend à surmonter l'hostilité naturelle qu'on éprouve envers l'étranger. Donc il met l'accent sur cette hospitalité. Et ce qui m'a intéressé par rapport à Derrida, c'est que Kant l'a défini de manière tout à fait intéressante. Enfin, il se refuse à faire de l'étranger un messie ou un dieu qui viendrait parmi nous, mais il n'en fait pas non plus un ennemi. Il dit, bon, l'hospitalité consiste à ne pas considérer l'étranger comme un ennemi. Voilà. Ne pas considérer l'autre comme un ennemi. Et donc, le juger au cas par cas pour ce qu'il fait. S'il est en danger, on doit l'accueillir, à condition qu'il se comporte pacifiquement. S'il se comporte de manière agressive, violente, prédatrice, on n'a plus besoin d'accueillir.
On peut se défendre aussi.
Voilà, il faut se défendre. Donc, ce n'est pas cette hospitalité inconditionnelle, ce quoi qu'il en coûte d'Héridien, qui est comme très très problématique.
Et très absolutiste aussi dans son exigence.
Kant me semble-t-il beaucoup plus rationnel, puisque bon, il pose que l'hospitalité doit répondre à certaines conditions précises. Ce qui veut dire aussi qu'il n'est pas question d'abolir les frontières, Kant était tout à fait opposé à l'idée d'un État mondial unique. Il dit que ce serait le pire despotisme. Alors, ça signifie donc que c'est à l'autorité politique légitime, hein, en concertation avec les citoyens, de réfléchir sur les conditions concrètes de l'accueil. Et donc, bon, ça veut dire aussi que nous avons besoin d'une constitution que Kant appelle républicaine. Ce qu'on appelle nous aujourd'hui la démocratie.
La démocratie, oui. La démocratie.
Il faut que l'ensemble des citoyens soient consultés et délibèrent publiquement sur les questions politiques en général et sur la question de l'accueil. Il ne faut pas réserver ça au caprice arbitraire d'un despote. Donc, ce sont des choses très intéressantes. Ça signifie que la démocratie est intrinsèquement pacifique et hospitalière, selon Kant. Et ça veut dire aussi qu'une démocratie qui s'emmure face à l'étranger, une démocratie qui glisse vers l'inhospitalité et la xénophobie, elle se trahit elle-même et elle se met elle-même en danger. Hein, on commence par contrôler, expulser les étrangers, puis bientôt ça va être les opposants ou les minorités diverses et variées. Et là, on glisse vers la pente du despotisme. Donc, défendre l'hospitalité, c'est aussi défendre la démocratie.
Quelques notes de musique.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez sans retour, allez sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez sans retour, allez sans retour.
Dialogue, Monserrata Vidal.
Juliette chantait « Aller sans retour ». Très belle chanson qui dit le dilemme, la souffrance de l'exilé. Pas seulement des migrants, mais de l'exilé. Jacob Rogozinski, nous parlions de Kant. Et j'ai relevé cette citation dans votre très bel essai. « Le droit qu'a tout étranger à ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. » Pour Kant, donc, l'étranger doit être accueilli, non pas de façon inconditionnelle comme l'aurait souhaité, le voudrait Derrida, mais il pense, Kant, à ce qu'il appelle un droit de visite. Alors, j'ai été surprise de trouver cette expression. et qui nous ramène finalement à la possibilité de l'accueil. Est-ce que on pourrait clarifier cet aspect-là, Jacob Rogozinski?
Oui, alors ça c'est un point un petit peu délicat, parce qu'il distingue le droit de visite et le droit d'installation permanente. Donc si on suit de près, si on reste trop proche du texte de Kant, on a l'impression qu'il serait partisan d'une remigration des immigrés. Au bout d'un certain temps,
On regarde les a utilisés le texte, et on les ramène chez eux, comme c'est le cas par exemple dans un projet anglais où on ramènerait les étrangers par exemple au Rwanda, où on les réinstallerait là-bas.
L'extrême droite allemande, là, apparemment, avait un plan de remigration massive. On sait d'où ça vient et où ça mène. Non, mais je crois que quand on regarde de près le texte de Kant, on s'aperçoit que ce qu'il a en vue, ce sont les étrangers qui débarquent quand ils parlent, qui ne devraient pas s'installer, ce sont les conquérants européens. Voilà. Ce qu'il a en vue, c'est le colonialisme de son temps, c'est-à-dire les Occidentaux qui débarquent en Afrique, qui débarquent en Amérique, qui invoquent de manière totalement hypocrite, mais comme des vrais tartuffes, ils brandissent la Bible et ils revendiquent le droit d'être reçus de manière hospitalière, alors qu'en fait, ils veulent s'installer pour conquérir, pour asservir les habitants, etc. Donc il dit, bon, des gens comme ça, il faut surtout pas les laisser s'installer, il faut leur accorder un droit de visite provisoire. Mais bon, les étrangers qui frappent à nos portes ne sont pas des conquérants. Ce sont pas les conquistadors espagnols. Ce sont des gens qui, encore une fois, ne peuvent pas vivre là où ils vivent. Des gens qui, comme dit cette chanson que vous avez passée, là, qui doivent faire l'effort d'oublier là d'où ils viennent pour pouvoir aller ailleurs, ce qui implique un déchirement. Donc, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que Kant. Il faut passer du droit de visite au droit d'installation, c'est-à-dire au droit de participer aussi à la vie publique dans le pays d'accueil. Et là, j'essaie de réfléchir dans ce livre, c'est deux propositions qui valent ce qu'elles valent, mais l'une, par exemple, serait celle d'un c'est pas mon idée, mais ça me paraît suffisant.
Un
parlement des migrants, c'est-à-dire une instance politique dans laquelle ceux qui viennent, ceux qui sont accueillis, ne sont pas encore citoyens, auraient déjà la possibilité de discuter des questions politiques concernant le pays d'accueil, et notamment des modalités d'hospitalité. Ou une autre possibilité que je suggère, c'est l'idée d'un passeport européen. Avant qu'on leur donne un passeport allemand, français, espagnol, italien, qu'ils aient accès à un passeport supranational. Parce que ce serait un pas de plus vers cette société cosmopolitique dont parle Kant. Un droit des citoyens du monde qui serait au-delà du droit des États. Donc les migrants qui viennent sont au fond les premiers citoyens du monde. Et il faut aussi les accueillir comme tels et leur donner les moyens d'exercer ce droit. Mais derrière cela, il y a cette idée que je trouve extrêmement intéressante chez Kant, cette idée qu'au fond, la terre appartient à tous les hommes.
C'est un bien commun.
Aucun homme n'a plus de droit qu'aucun autre d'être ici sur cette terre. C'est-à-dire, ce qu'il appelle le droit d'être là où la nature ou le hasard nous a placés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le droit de vivre là où on peut vivre. Si on ne peut pas vivre là, on a le droit d'être ailleurs. Donc personne ne peut revendiquer un territoire, une terre, comme étant absolument la sienne.
Par exemple, d'une antériorité quelconque. La terre appartient à tous, comme l'eau, comme le sol, comme l'air que nous respirons.
Personne n'était là avant. Ou alors, c'est ce que j'appelle, pas dans le livre, mais que j'appelais en parlant avec des amis, le droit du pithécanthrope. Parce que avant nous tous, Homo sapiens, il y avait des pithécanthropes. Non, je plaisante, mais c'est au nom du droit, d'une soi-disant antériorité que les conquérants justifient leurs actions belliqueuses. C'est parce qu'ils prétendent que l'Ukraine a été autrefois russe, que les Russes envahissent l'Ukraine. L'Alsace où j'habite maintenant, je suis à Strasbourg, l'Alsace a été allemande pendant une douzaine de siècles. Ça ne donnait aucun droit à l'Allemagne d'annexer l'Alsace contre la volonté des Alsaciens. Ce qui compte, c'est pas de chercher qui était là avant. Ce qui compte, c'est ce que veulent les gens. Est-ce qu'ils veulent ou non vivre ensemble sur cette terre-là? Et ce qui est très beau chez Kant, cette idée, effectivement, de penser la terre comme un bien commun. Un bien commun qu'il s'agit donc de partager, parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un bien qui est fini et périssable. Donc la terre, est un commun, comme on tend aujourd'hui à penser l'eau, le sol. Et donc, il faut essayer de penser un partage juste de la terre. au lieu d'invoquer sans arrêt notre droit à être ici parce que nous étions là avant. Personne n'a été là avant.
Ou il y a toujours quelqu'un avant, de toute façon.
Le pithécanthrope, ou le droit du dinosaure. Oui. Le dinosaure était avant nous tous.
Vous émettiez quelques objections concernant Derrida, mais Kant, lui aussi, passe au tamis de votre critique. Vous dites que Kant est peut-être excessivement confiant dans les progrès qui ont marqué les Lumières. En quoi est-il justement excessivement confiant? Et se pointe à l'horizon cette idée de nation qui est vraiment une notion qui peut être ambivalente, Jacob Rogozinski. Est-ce que nous pourrions aller, pour cette dernière partie de l'émission, vers cette notion?
Oui, bon, non, je pense que Kant n'a pas pris suffisamment en compte la résistance que le sentiment national allait opposer à ce projet d'une cosmopolis, hein, d'une société bon, qui dépasserait les clivages identitaires. Bon, et on voit très bien qu'en 1914, même les gens qui étaient le plus attachés à l'internationalisme prolétarien, enfin toute la gauche social-démocrate de l'époque, comme un seul homme, ils sont tous rués dans l'Union sacrée, que ce soit en France ou en Allemagne ou ailleurs. Donc il y a toujours une prégnance, une force hein, du sentiment national. Et je pense qu'il faut interroger la nation parce que c'est un des principaux foyers de l'inhospitalité. C'est-à-dire ce que j'appelle le dispositif d'inhospitalité s'ancre dans le sentiment national, le sentiment d'appartenance à une nation dont les étrangers seraient a priori exclus. Alors attention, vous avez raison, hein. Là je ne vais pas dire qu'une nation c'est mal, et qu'il faudrait abolir la nation. D'ailleurs, bon, je pense que c'est pas à l'horizon. Les nations résisteront longtemps. Non, non, je pense que la nation, effectivement, est quelque chose de très ambivalent. Tout à l'heure, bon, j'évoquais dans l'émission précédente, j'évoquais mes parents qui ont été accueillis très généreusement par la France. Donc la France, en 45-46, savait se montrer hospitalière envers des réfugiés juifs, polonais, survivants de la Shoah. Mais si mes parents, je l'écris aussi, si mes parents étaient venus un peu plus tôt, dans les années, au début des années 40 par exemple, ou même dans les années 30, ils auraient eu sans doute beaucoup plus de difficultés à être accueillis. Et ça serait passé beaucoup plus mal. Donc la même nation peut se montrer tantôt hospitalière, tantôt inhospitalière. Parce que dans l'idée même de nation, il y a une ambiguïté fondamentale. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de montrer.
Oui. Et vous dites que même sémantiquement, le terme « nation » renvoie à deux réalités, à deux significations antagonistes, ou presque antagonistes. La nation, c'est là où l'on est, ça a quelque chose à voir avec l'origine, avec la naissance. Mais la nation, c'est aussi la souveraineté, c'est le territoire qui peut se montrer accueillant ou au contraire inhospitalier. Alors, comment peut-on, dans le contexte actuel, parce que votre essai éclaire nos temps, comment peut-on aujourd'hui envisager la nation dans les discours porteurs de haine, porteurs de peur, de fantasmes, aussi tels qu'on les entend aujourd'hui?
Oui, nation est de même racine que le mot naître en latin, nasci, et aussi nature. Hein, donc ça renvoie à l'idée d'une sorte d'enracinement dans une nature.
Oui.
Bon, on n'est pas très loin de l'idée de race à ce moment-là, ou d'ethnie. Mais en même temps, bon, il faut bien voir que le mot nation, au sens que nous lui donnons, est un mot récent.
Il y a un sens siècle, très différent.
C'est au XVIIIe siècle qu'on commence à parler de la nation française, ou de parler d'éducation nationale ou d'économie nationale. Et la nation devient un principe politique, le principe de la souveraineté, au moment de la Révolution française. Et c'est lié à l'idée de souveraineté du peuple. Donc là, on est très loin de la nature, de l'enracinement, de la race. C'est la puissance constituante d'un peuple qui devient le peuple souverain. Et là, bon, il y a une manière très belle de penser cela. C'est Ernest Renan, un auteur qu'on a un petit peu oublié, un auteur de la fin du 19e. Dans Qu'est-ce qu'une nation? Il dit très clairement que la nation ne se ramène pas à la race, ni à la langue, ni à la géographie, mais à la volonté. Une nation, c'est le désir de continuer à vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'il a défini comme un plébiscite de tous les jours. On dirait un référendum quotidien. C'est le désir de faire partie d'une communauté et de continuer à en faire partie. Et ce désir doit être relancé tous les jours et il fait partie de la liberté. Et donc, et c'est le fondement, la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Donc là, je fais une sorte de petit passage historique où je montre qu'au départ, au moment où la nation est apparue comme telle, hein, au moment de la Révolution française, il y avait une conception extrêmement hospitalière hein, de l'accueil par la nation. Bon, il y a même des étrangers qui ont été accueillis, qui sont devenus députés à la Convention en 1792. Donc on avait disjoint complètement l'appartenance à la citoyenneté et le fait de pouvoir exercer le pouvoir législatif. Et alors l'un d'eux, bon, un personnage qu'on a totalement oublié, mais très remarquable, un personnage appelé Klutz, c'était un Prussien, hein, il se disait orateur du genre humain, et il était pour l'abolition des nations. Et il disait il faut renoncer même au nom de France hein, ou au nom d'étrangers pour cesser de morceler l'humanité. Donc il y avait une dimension extrêmement hospitalière de la fondation révolutionnaire et républicaine de la nation. Alors après ça s'est inversé, au moment de la terreur, il y a eu une sorte de repli sur soi, de dénonciation de l'ennemi étranger. Je pense qu'il faut retrouver cette conception hein, qui est celle de Kant, qui est celle de Renan, d'une nation hospitalière, hein, d'une nation qui sans se renier elle-même accepterait d'accueillir les étrangers. Ce qui veut dire reconnaître qu'une nation est fondamentalement une communauté imaginaire. Ah oui. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup.
Oui, beaucoup, attention. Avec des symboles, avec des figures qui permettent justement de se sentir appartenir à cette nation.
Oui, des figures toutes simples, celles qu'on avait autrefois dans les livres d'histoire. Hein, Vercingétorix, Alésia, le poilu de 14-18, Jeanne d'Arc sur son cheval, le sans-culotte de 93. On appelle donc les nationaux à s'identifier à ces images, à ces figures. Et donc, il n'y a pas d'identité nationale, il y a une identification. Et comme elle passe par des images, je dis qu'elle est imaginaire. Ce qui ne veut pas dire que la nation serait illusoire ou que ce serait un fantasme. Non, hein, l'imaginaire crée le réel. L'imaginaire transit le réel et le constitue comme tel. Donc il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'identité nationale a priori. Hein, la nation est ce que nous en faisons hein, parce qu'elle est ce que nous désirons qu'elle soit. Hein, ouais. Je pense qu'il faut retrouver cette conception-là de la nation.
Nation ouverte, mais non niée pour autant. Une nation ouverte à l'accueil, mais non nier la nation existe, le sentiment d'appartenance existe.
Voilà, il est important, et encore une fois, il n'est pas question d'abolir les frontières, ce serait tout à fait dramatique pour plusieurs raisons. Simplement, il faut essayer de penser, il faut, comme le dit un philosophe français contemporain, Balibar, il faut démocratiser la frontière. Il faut chercher les moyens de démocratiser la frontière. C'est-à-dire, si la nation se pense comme un grand corps, ça c'est la fin de la dernière partie de mon livre, hein, j'essaie de travailler cet imaginaire du corps qui sous-tend l'idée même de nation. Alors si la nation se vit comme un corps, alors la frontière est sa peau. Et donc il faut tenter de se demander ce que c'est qu'une peau. Or une peau, ce n'est pas une carapace close, fermée sur elle-même. Une peau, c'est une membrane poreuse. Notre peau est trouée par des orifices, ceux des yeux, du nez, de la bouche, des oreilles, d'autres encore, hein, ouvertes sur le dehors pour aspirer, absorber, rejeter, etc., etc. Et les innombrables pores de notre peau qui nous permettent de respirer. Donc voilà, si la peau est l'archi-frontière, si les frontières doivent prendre modèle sur la peau de notre corps, de notre moi, il faut les penser comme des membranes poreuses, c'est-à-dire des membranes qui sont ouvertes sur le dehors, ouvertes sur les autres corps, sur les autres vies.
Je n'ai rien à rajouter, Jacob Rogozinski, si ce n'est inciter nos auditeurs à lire ce très bel essai publié aux éditions du CERF qui s'intitule « Inhospitalité », riche, revigorant, passionnant. Merci beaucoup.
Merci à vous.